Matt Productions. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Lecture pour les Kids, l'émission qui permet aux plus jeunes d'écouter de merveilleuses petites histoires. Cette semaine, Sophie et Cynthia de Studio Zef vous proposent leur sélection d'albums. Bonne écoute!
Le loup et la tapisserie, une histoire de Michel Piquemal, illustration de Bruno Gibert. Un soir, juste au moment de s'endormir, Benjamin aperçoit une drôle de tache grise sur la tapisserie. « Tiens, on dirait un loup !» Benjamin approche son œil tout près, tout près. « Mais oui, c'est un loup! Il y a un loup dans la tapisserie !» Vite, il appelle sa maman. « Regarde, maman, là, entre les étoiles, il y a un loup !»«
Allons, lui dit-elle, ce n'est rien !» Rien qu'une tache, une toute petite tache de rien du tout. Dors, Benjamin, dors.
Mais non, c'est bien un loup. Benjamin en est certain. Chaque nuit, il l'entend qui appelle.
Ouh, ouh, ouh.
Le loup est sans doute prisonnier, il veut sortir. Mais que peut faire Benjamin? Il n'a pas de pouvoir magique pour le délivrer. Alors il se contente de lui dire.
Chut, sois gentil, je veux dormir.
Et le loup se tait. Mais au beau milieu d'une nuit de pleine lune, le loup se remet à hurler.
Ouh, ouh, ouh.
Les yeux tout pleins de sommeil, Benjamin se tourne vers la tapisserie.
Mais qu'est-ce que tu as? Allons, tiens-toi tranquille.
Cela n'y fait rien. Le loup continue à pousser ses ouh, 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 ouh.
Et ils sont si tristes, si plaintifs que Benjamin en est très ému.
Il a peut-être un gros chagrin, se dit-il.
Tu veux un câlin, mon gros loup-garou?
Il se tourne vers le papier peint et il embrasse la tête du loup. Miracle! Voilà le loup délivré. Il sort de la tapisserie et vient faire des cabrioles sur la moquette de la chambre.
Benjamin n'est pas très rassuré. Il regarde avec des yeux ronds ce gros animal tout poilu, au croc brillant et pointu.
Ne raconte-t-on pas dans les histoires que les loups mangent les petits-enfants?
Si vous avez faim, monsieur le loup, bégaye-t-il, il reste des hamburgers au congélateur.
N'aie pas peur, lui dit le loup en riant, je vais pas te croquer.
Vous êtes sûr de pas avoir un petit creux dans votre gros ventre? Il y a aussi des boîtes de pâté dans le placard.
Non, je te dis, un méchant sorcier m'avait enfermé et ton baiser m'a délivré. Je veux te récompenser. Le loup sort de sa poche une petite image.
Mais c'est votre photo, s'exclame Benjamin.
Tout juste, répond le loup. Il lèche le dos de l'image avec sa grosse langue rouge et, clac, il la colle sur le mur, juste à l'endroit d'où il est sorti. Tu vois, dit-il au petit garçon, c'est un loup mangeur de cauchemars. Il veillera sur toi si un mauvais rêve vient t'embêter. Crac, il n'en fera qu'une bouchée.
Oh, chouette, s'écrie Benjamin. Comme ça, je n'aurai plus jamais peur, même quand il y aura le tonnerre et les éclairs.
Benjamin voudrait le remercier et lui serrer la patte, mais... La fenêtre s'est ouverte et le grand loup a déjà disparu. Alors, Benjamin fait un gros bisou à l'image de la tapisserie et se rendort en souriant.
Écoutons une berceuse africaine, plus précisément du Congo, Olele Moliba Makassi, voulant dire le courant est fort, par Jean-Marie Bolangassa et des enfants.
Olele Moliba Makassi.
Olele, Olele Moliba Makassi. Olele, Olele Moliba Makassi. Mboka na ye. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye mboka mboka kasai o lele moliba makasi luka o lele moliba makasi Kara a oya oya onginza a oya oya bengela a oya oya kara a oya oya onginza a oya oya olele olele moliba makasi olele olele moliba makasi
olele Olele, moliba makasi.
Je m'appelle Mariam, par Mariam Majidi, illustration par Claude K. Dubois, aux éditions Mouche, l'école des loisirs. Mariam ne joue pas. Mariam doit quitter le pays où elle est née. Le père et la mère de Mariam ont décidé de quitter le pays où ils sont nés. Ils doivent partir ailleurs pour vivre librement, pour vivre sans avoir peur de l'avenir. Mariam est triste. Elle ne veut pas se séparer de sa grand-mère qu'elle aime tant. Sa grand-mère ne vient pas avec eux, car elle a choisi de rester dans le pays où elle est née. Quelques semaines avant de partir, la maman de Mariam l'appelle et lui dit « On ne peut pas emporter tes jouets avec nous. Tu vas les donner aux enfants qui jouent dans notre rue. » « Mais je ne veux pas donner mes jouets, je veux les emporter avec moi. » « On ne peut pas, on n'a pas assez de place dans nos valises, et puis c'est beau de donner. » « Non, je suis obligée de donner, c'est pas la même chose. » « Je te le répète, on n'a pas de place dans nos valises pour tes jouets. » Mariam observe les deux grandes valises posées dans le salon. C'est vrai qu'elles sont déjà bien remplies, pleines de vêtements, de chaussures, de cadeaux que la famille leur a fait avant le départ, et de confiseries qu'ils ne trouveront peut-être pas là où ils vont. Il n'y a pas de place pour ses jouets, ses poupées, ses peluches. Elle est dans sa chambre et elle rassemble autour d'elle ses poupées qu'elle aime tant. Elle leur parle. « Ne vous inquiétez pas, personne ne nous séparera. On va rester là ensemble et je vous raconterai des histoires. Et quand ce sera la nuit, je vais faire un trou dans la terre au pied de l'arbre et je vous cacherai là. Plus tard, je reviendrai vous chercher et on jouera à nouveau ensemble. » Elle ouvre alors un livre et raconte une histoire à ses poupées qui la regardent sans rien dire. Mais jour après jour, une par une, les poupées vont des mains de Mariam aux mains des autres enfants. Un par un, les jouets disparaissent de la chambre de la petite fille. À la veille de son départ, il ne reste plus aucun jouet dans sa chambre. Chacune de ses poupées vit désormais une nouvelle vie, dans les bras d'un autre enfant. Un matin, Mariam prend l'avion et elle arrive dans un nouveau pays. Elle arrive ici. Ici, c'est le pays où elle vit. C'est le pays où nous sommes. Là-bas, c'est le pays où elle est née. C'est le pays qu'elle a quitté. Avec ses parents, ils habitent un tout petit appartement. La nouvelle chambre de Mariam est vide. Dans sa chambre, il n'y a aucun jouet. Et dans son cœur, il y a un autre grand vide. Ses poupées lui manquent. Ses parents lui ont promis de lui acheter des nouvelles poupées bientôt. Elle attend impatiemment, mais pour le moment, elle n'a pas de jouets. Alors elle ne joue pas. Mariam ne parle pas. Mariam ne parle pas, mais elle a de grands yeux noirs qui observent le monde. Dans sa tête, deux langues parlent sans cesse en même temps. Sa tête est énorme et lourde à porter, avec ses deux langues qui se chamaillent à l'intérieur. Laquelle choisir ? Mariam ne sait pas, alors elle se tait. Mariam vient de là-bas. Là-bas, on parle une autre langue. Elle est venue habiter ici. Ici, on parle une autre langue. À l'école, elle apprend une nouvelle langue que ses parents ne connaissent pas. C'est la langue d'ici. Elle n'ose pas encore parler cette langue en classe, car elle a peur de faire des erreurs de grammaire, de conjugaison, toutes les règles de la langue d'ici que sa maîtresse lui apprend. Alors, assise sur sa chaise, elle se fait toute petite et se tait, mais elle mémorise toutes les leçons dans sa tête. À la maison, avec ses parents, elle parle une autre langue que ses amis de l'école ne connaissent pas. C'est la langue de là-bas. Quand sa mère vient la chercher à la sortie de l'école, elle lui parle dans la langue de là-bas, et la petite Mariam n'aime pas ça. Elle observe les autres parents et les autres enfants. Eux ne parlent pas une autre langue que la langue d'ici. Les parents parlent dans la même langue à leurs enfants que la maîtresse de l'école. Mariam, au fond d'elle, a un peu honte de la langue de sa mère. Elle voudrait que sa mère lui parle dans la langue de l'école. Elle ne veut pas être différente des autres. Elle a peur qu'on se moque d'elle et que de cette langue que seuls son père, sa mère et elle-même parlent. Alors, elle a l'impression que sa tête est comme un gros ballon dans lequel les deux langues frappent. Et boum, elle roule de la langue d'ici à la langue de là-bas. Et boum, de la langue de l'école à la langue de la maison. Parfois, elle a l'impression aussi que les deux langues jonglent avec elle. Elle est balancée en l'air, elle a peur de tomber par terre et de se faire mal si l'une des deux langues la lâche. Et hop là, elle est jetée en l'air et va de la langue de la maison à la langue de l'école et hop, de la langue d'ici à la langue de là-bas. Elle voudrait avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Mais cette tête est si lourde à porter. Elle voudrait que les deux langues se taisent et cessent de l'embêter. Mais laquelle choisir ? Mariam ne sait pas. Alors elle ne parle pas. Mariam ne mange pas. À la cantine, elle n'aime pas les plats qu'on lui sert. Ces plats sont totalement inconnus pour elle. Le steak est saignant, le fromage sent mauvais et le riz de la cantine ne ressemble pas du tout au riz de sa maman. La première fois qu'elle a vu dans son assiette le morceau de viande saignante, elle a eu si peur. Jamais elle ne mangera cette viande. On lui sert parfois aussi une purée orange bizarre. C'est de la purée de carottes. Elle n'a jamais mangé une chose pareille. Jamais elle ne mangera cette purée. Dans son ventre, elle veut les plats de là-bas. Les plats délicieux de sa grand-mère et de sa mère. À la maison, elle dévore les plats de sa maman. La viande est découpée en petits morceaux et mijote dans une sauce délicieuse. Le fromage ne sent pas mauvais, il a une douce odeur de chèvre. Le riz est parfumé et fond dans la bouche. Miam ! Elle adore ça et elle en redemande. Et puis à la cantine, elle ne comprend pas pourquoi il y a d'abord une entrée, puis un plat, puis du fromage, puis un dessert. C'est long et c'est pas bon. À la maison, il n'y a qu'un seul plat accompagné de yaourt ou de salade. C'est tout. C'est rapide et c'est bon. Elle ne comprend pas non plus pourquoi on mange du fromage à la fin du repas. Dans sa maison et dans son pays, là-bas, on mange du fromage au petit déjeuner, avec du thé. Elle a décidé de ne plus manger la nourriture d'ici. Mais tout le monde l'oblige à manger. Les autres enfants se moquent d'elle. Ils lui disent « Mais mange, arrête de faire ton intéressante !» Les dames qui travaillent à la cantine lui disent « Mais mange, sinon tu ne vas pas grandir !» Sa maîtresse lui dit « Mais mange, voyons, tu en as besoin. Essaye au moins, tu vas peut-être aimer. » Et la petite Mariam se répète tout bas « Je ne mangerai pas, je ne mangerai pas, je ne mangerai pas. » Elle se sent bien seule. Elle a l'impression qu'une épaisse bulle de solitude la rend invisible aux yeux des autres enfants. « Personne ne me voit », pense-t-elle. Et puis un jour, à la récréation du matin, Mariam entend une petite voix. « Comment tu t'appelles ?» La même voix répète « Comment tu t'appelles ?» Mariam voit une petite fille debout devant elle. Elle lui sourit, elle a les yeux doux et les cheveux roux. « Mais réponds-moi ! Comment tu t'appelles ? Tu as perdu ta langue ?»«
Je m'appelle Mariam. »
Mariam n'est plus seule. Et depuis ce jour, petit à petit, Mariam parle. Elle parle la langue d'ici, à l'école, et la langue de là-bas, à la maison. Petit à petit, les deux langues ne jonglent plus avec elle. Mais c'est elle qui joue et jongle avec ces deux langues. Elle passe d'une langue à l'autre, comme un colibri passe de la branche d'un arbre à une autre. À côté d'elle, dans la classe, est assise la petite fille aux yeux doux et aux cheveux roux. Elles apprennent ensemble. Et depuis ce jour, petit à petit, Mariam mange à la cantine. Au début, un petit morceau, puis un autre. Parfois la moitié de l'entrée, ou juste le dessert. Et petit à petit, le plat entier, et finalement l'entrée, le plat, le laitage et le dessert. À côté d'elle, à la cantine, est assise la petite fille aux yeux doux et aux cheveux roux. Elles mangent ensemble. Et depuis ce jour, petit à petit, Mariam joue. Elle n'attend plus de retrouver ses poupées de là-bas ni d'en recevoir de nouvelles. Elle joue avec tout ce qu'elle trouve, des pierres, des billes, des feuilles, du sable. Elle joue avec les autres enfants dans la cour de récréation. Elle court, bondit, grimpe, se cache, rit et saute sur le banc sur lequel elle s'était assise pendant des heures durant les récréations avant. À côté d'elle, dans la cour de récréation, court la petite fille aux yeux doux et aux cheveux roux. Elles jouent ensemble. Et voici que Mariam court vers un petit garçon et lui demande en souriant « Moi, je m'appelle Mariam. Et toi, comment tu t'appelles ?» Écoutons une berceuse corse, Ciucciarella, ma toute petite, par Léa Antona et Jean-Christophe Homereau.
sai quanto t'adoro. Le tue bellezze, le tue guadagni d'oro, da in su carata, quante lunga sta nottata. Fai la nina, fai la nana, luto babbo e alla campagna. So stata l'or tu, stamani di bono. Data la scuola, tutto era parveda teni, o mazzulu di ola. Fai la nina, fai la nana, luto babbo e alla campagna.
La tache rouge, une histoire contée par Pierre Edrich et dessinée par Galou, aux éditions Contes pour penser à l'endroit. Il était une fois un petit garçon qui vivait à l'orée d'un bois. Le paysage était beau, la vie était belle. Un jour, après une violente nuit d'orage, une grosse tache rouge s'abattit au-dessus de sa maison. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moche ! » s'écria-t-il. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je n'ai rien fait! Il était furieux. Il voulait tout casser. Il pleura longuement, mais cela n'arrangeait rien. La tache était toujours là. Comment je peux enlever cette grosse tache qui salit tout mon paysage? Se lamentait-il. Il pensa qu'il pouvait la gommer. Mais quand il essaya, cela devint encore plus sale. Il décida de la recouvrir de peinture blanche. Ça faisait un gros pâté blanc au-dessus de sa maison. Ce n'était pas parfait. Mais enfin, il ne la voyait plus. Et la vie put recommencer presque comme avant. Jusqu'au jour où une bouffée de grand vent apporta une nouvelle tache. « Non, pas encore ça !» s'exclama-t-il. Il ne voulait plus recommencer avec la peinture blanche. Il était découragé. Il eut la tentation de déchirer la page pour ne plus en entendre parler. Mais il ne voulait pas se retrouver en morceaux. Alors il abandonna. Déprimé, il courut hors de la page. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais au dernier moment, il se dit que ce n'était pas possible, qu'il voulait exister jusqu'à la fin de l'histoire. Il revint dans la page et fit comme si la tâche n'existait pas et qu'il ne s'était rien passé. Mais la vie devenait intenable. Alors pour la première fois, il osa regarder la tâche droit dans les yeux. Il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire avec toi ?» Après l'avoir longuement regardé, il eut une idée. Il prolongea les giclures rouges et la tâche devint un soleil. Il trouva son idée géniale et cela le rendit tout heureux. Ce jour-là, il ne l'oubliera jamais parce que c'est le jour où il a commencé à aimer sa tâche rouge.
Écoutons Dodo Tibaba, une petite fleur de l'amour, berceuse créole par Héloïse Aguénor Poinceau et son papa.
Avec son papa, Dodo Tibaba, berceuse créole maman avec son papa.
Petite fleur d'amour, la belle aux mille oiseaux, si fille jamais la comme il aime. Fleur l'amour, la belle aux mille oiseaux, t'y fis jamais la comme il aime à Dodo Tibaba, sans histoire maman avec son papa. Dodo.
Le gros chagrin d'Edgar, une histoire écrite par Xavier Gors, illustrée par Yves Calarnoux. Aux éditions Les Belles Histoires, Bayard Poche. De mémoire de cochon, de mémoire de canard, jamais dans une ferme, on a vu d'âne plus heureux qu'Edgar. Car jamais dans une ferme, on a vu d'âne plus gâté. Parce que le seul travail d'Edgar, c'est manger le plus possible de chardons dans le grand pré d'en bas. Les chardons, Edgar, il adore ça. Il les mange si consciencieusement qu'il en a gagné un bon petit bidon, bien rond, d'âne mangeur de chardons. Mais la principale raison du bonheur d'Edgar, c'est l'amour que lui porte son maître, Gaston. Car si l'on n'a jamais vu d'âne plus heureux qu'Edgar, jamais on n'a vu de maître plus aimant que Gaston. Tous les matins, Gaston apporte à Edgar 3 ou 4 bonnes grosses carottes fraîchement cueillies. Gaston dit « Bonne journée, Edgar !»«
Hein ?»
répond Edgar. Puis Gaston emmène Edgar manger ses chardons au grand pré d'en bas. Dans la ferme, il y a quelques jaloux qui disent « Edgar, c'est le chouchou !» Il y a bien quelques poules qui papotent, quelques canards qui cancanent et quelques jarres qui jasent. Bof, Edgar s'en moque. Edgar est heureux et voilà tout. Jusqu'au jour où Gaston revient du marché avec une dinde sous le bras. C'est une simple petite dinde dans son joli costume de plumes noires. Dès qu'elle arrive à la ferme, les poules se précipitent vers elle. « D'où viens-tu? Sais-tu jouer à gobe-caillou ?» Mais la dinde, qui s'appelle Marie-Delphine, fait la fière. Très vite, les poules la prennent en grippe. « Non mais pour qui elle se prend, celle-là » disent-elles. « Marie-Delphine, quelle pimbèche !» Les jours passent et Marie-Delphine n'a encore adressé la parole à personne. Mais il y a pire. On s'aperçoit très vite qu'elle est la mieux nourrie de tous. Gaston la nourrit 2 fois par jour. Parfois, il la prend sur ses genoux pour lui tâter les cuisses. Il veut être sûr qu'elle ne manque de rien. Les poules sont furieuses. Edgar aussi trouve que Gaston exagère. Pourtant, Gaston n'oublie pas Edgar. Tous les matins, il lui apporte de bonnes carottes. Oui, mais voilà. De jour en jour, Edgar les trouve. Un peu moins juteuses, un peu moins croquantes, un peu moins sucrées. Si bien qu'à la fin, il les touche à peine. Il n'arrête pas de penser à cette idiote de Marie-Delphine, toute fière d'être cajolée par Gaston. Et tandis que chaque jour, elle devient plus grasse dans son beau costume de plumes noires, petit à petit, Edgar perd son bon petit bidon d'âne mangeur de chardons. Une nuit, qu'il neige à gros flocons, Edgar est réveillé en sursaut. Il voit Gaston dans la cour de la ferme qui court de tous côtés en criant « La dinde, où est-elle passée, cette idiote de dinde ?» Gaston entre dans l'étable, il plonge dans la paille, il fouille, mais il ne trouve rien. Alors déçu, il se confie à Edgar. « Depuis des semaines, je bichonne cette dinde, je l'engraisse pour la manger le soir du réveillon, et voilà que juste la veille, paf, elle disparaît. J'ai beau chercher partout, elle s'est envolée. » À ces mots, Edgar comprend tout. Il se dit « Comment ai-je pu me rendre malade à cause de cette malheureuse dinde ?» D'un coup, il se sent soulagé. Le soir du réveillon passe, sans dinde pour Gaston. Le lendemain, pour fêter la nouvelle année, Gaston emmène Edgar au grand pré d'en bas. « Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu de dinde que tu n'auras pas de bon chardon, » lui dit-il. « Régale-toi, mon brave Edgar. » Et Edgar travaille donc à se faire un bon petit bidon d'âne mangeur de chardon. Mais soudain, un drôle de sac de plumes lui tombe dans les pattes. « Marie-Delphine ! » !»« C'est bien elle, mais dans quel état ? » Ses plumes sont grises et trempées, elle grelotte de froid et de peur et elle supplie. « Edgar, s'il te plaît, cache-moi, je ne veux pas être mangée et... » Et elle s'effondre, épuisée. Edgar est stupéfait. Est-ce cette Marie-Delphine si fière qui lui parle ainsi ? Alors Edgar la conduit vers son étable et il lui fait dans la paille une cachette bien chaude. Il a envie de s'occuper de Marie-Delphine, de l'aider à se refaire une santé. Mais que va dire Gaston ? Voudra-t-il toujours la manger ? En voudra-t-il à Edgar de l'avoir protégée ? Or, ce soir-là, quand Gaston va voir son âne, il aperçoit bien la dinde, couchée entre les pattes d'Edgar, mais il ne cherche pas à l'attraper. D'abord parce que le réveillon est passé, mais surtout parce qu'elle n'est plus très appétissante, cette dinde. Gaston fronce les sourcils, puis il sourit et dit d'un air moqueur « Tiens, tiens, Edgar, tu as une nouvelle amie à présent !» Depuis ce jour-là, Edgar et Marie-Delphine ne se quittent plus. Oh, il y a bien quelques poules qui papotent, quelques canards qui cancanent, quelques jarres qui jasent, mais Edgar s'en moque. Car de mémoire de cochon, de mémoire de canard, dans une ferme, on n'a toujours pas vu d'âne plus heureux qu'Edgar.
Le rossignol est l'empereur de Chine.
Kocha, d'après Andersen, illustré par Q. Lan. Il était une fois, il y a fort longtemps, un grand empereur de Chine. L'imperfection n'avait pas sa place autour de lui. Au sein de son palais, recouvert de belles tuiles jaunes vernissées, chaque objet était choisi. On y mangeait, dans des porcelaines fragiles, des peintures rares ornaient les murs, et aux fenêtres pendaient les tissus les plus lourds et les soies les plus fines. Et il en allait de même dans ses jardins colorés. Des pivoines les paraient abondamment au printemps, des fleurs de lotus s'ouvraient telles des coffrets en été, des chrysanthèmes ravissaient les yeux en automne, et l'hiver dévoilait ses pins et ses fleurs de prunier. Jusqu'à une certaine distance, tout était parfaitement réglé. Jusqu'à une certaine distance, car, pour dire la vérité, les jardins étaient si grands que le jardinier lui-même n'était jamais allé jusqu'au bout. Il s'était arrêté aux forêts feuillues et profondes qui couraient jusqu'à la mer. Une mer bleue où des embarcations s'activaient. Or, à cet endroit, sur une branche, au-dessus des flots, vivait un rossignol gris. Son apparence était commune, mais son chant était magnifique. Chaque soir, les pêcheurs interrompaient leur travail pour l'écouter. Puis, ils le reprenaient avec courage, persuadés qu'à travers la bouche de l'oiseau, le ciel leur avait parlé. Toutes ces beautés ne pouvaient être que louées. Des voyageurs de passage s'en emparèrent et les couchèrent dans des récits. Et par la magie du commerce et de la circulation, certains ouvrages parvinrent au grand empereur de Chine. Voir ses jardins et son palais encensé fut un délice pour ce dernier. Mais plusieurs poèmes ne parlaient que du chant prodigieux de l'oiseau. De toutes les splendeurs de l'Empire, disaient les mots, il est de loin le plus beau. Dans ses forêts, l'empereur possède un joyau. Outré d'apprendre par des étrangers l'existence de cette merveille sur ses terres, l'empereur convoqua le général de ses armées. « Comment se fait-il que personne ne m'en ait jamais informé ? Conviez ce rossignol au palais, je veux qu'il chante pour moi ce soir même. » Désorienté, le général parcourut le palais, questionnant chaque personne qu'il rencontrait. « Savez-vous où est cet oiseau ?» Mais à la cour, personne n'en avait entendu parler, sauf une petite fille qui mendiait dans les cuisines. « Il niche sur le rivage de la mer bleue, » dit celle-ci. « Je l'écoute chaque fois que je vais voir ma mère malade. Et son beau chant me fait pleurer. Il est aussi doux qu'un baiser. » « Mène-nous jusqu'à lui, » ordonna le général qu'une partie de la cour avait suivi, « et tu seras récompensé. » Elle s'exécuta sans hésiter. En chemin, des beuglements se firent entendre. « Quelle puissance dans le corps d'un si petit animal !» s'étonna le général. « Oh non, ce n'est qu'une vache, dit la fillette. Nous ne sommes pas arrivés. » Plus loin, des coassements jaillirent d'un marais. « C'est lui !» s'écria une princesse. « Non, » expliqua la fillette. « Mais nous sommes bientôt arrivés. » Soudain, sur sa branche, l'oiseau se mit à chanter. Bien que surpris par l'humble apparence de l'animal, le général fut subjugué. Le rossignol se servait avec brio de son gosier. La musique qui coulait de lui semblait venir du paradis. Elle chantait les éclaircies, la lumière après la nuit, le riz qui monte après la pluie. « Beau rossignol, » l'interrogea la fillette, « accepterais-tu de venir jusqu'au palais ? L'empereur aimerait t'écouter. » On le reçut dans la salle de l'harmonie suprême, où on l'installa sur une baguette dorée. Et là, sous le regard de tous et de la petite fille nouvellement nommée cuisinière impériale du palais, il se remit à chanter. Son chant était si admirable que des larmes quittèrent le cœur de l'empereur et cheminèrent jusqu'à ses yeux. Et plus elles coulaient sur ses joues, plus le rossignol se surpassait. Quand l'oiseau eut terminé, enthousiasmé, l'empereur souhaita le décorer. « Merci, » répondit le rossignol, « mais les larmes impériales ont une valeur inestimable. Je suis déjà récompensé. » Puis il reprit ses chansons pour le plus grand plaisir des dames qui tentaient de l'imiter en remplissant d'eau leur gosier. Et pour celui des serviteurs, pourtant plus difficile à satisfaire. À partir de ce jour-là, l'oiseau dut vivre au palais dans une jolie cage dorée. Certes, il pouvait sortir parfois, mais tenu en laisse par de fins rubans de soie. Et dans la ville, tout le monde ne parlait que de lui, au point que de nombreux nouveau-nés furent appelés rossignols, même s'ils ne savaient pas chanter. Ainsi, les semaines se succédèrent, bercées par la douceur des chants. Et un matin, alors que les sakuras terminaient leur floraison, l'empereur reçut un présent,
un rossignol d'or et d'argent. Il chantait quand on le remontait, et sa queue, battant la mesure, scintillait de 1000 diamants. À la cour, tout le monde s'extasia. L'empereur suggéra à son chef d'orchestre de faire chanter les oiseaux en duo. Mais le concert ne fonctionna pas, car l'un sifflait des airs du ciel, tandis que l'autre obéissait au mouvement de ses cylindres. Alors, l'automate se produisit en solo. 33 fois sans se fatiguer. Il chanta le même morceau, jusqu'à ce que l'empereur redonne son tour au véritable rossignol. Mais, délaissé, celui-ci s'était envolé. « Comment ?» s'indigna le monarque, et la cour accusa l'oiseau d'ingratitude. « Qu'importe, affirma le chef d'orchestre, nous avons gardé le meilleur. On peut l'ouvrir, prévoir les notes qui vont suivre, et il recoule à loisir. Nous en serons enchantés. » De fait, en l'écoutant, le peuple fut transporté, sauf les pêcheurs qui, connaissant les chants du vrai rossignol, ne pouvaient être bernés. Et tandis que l'oiseau gris était banni de l'Empire, l'oiseau d'or recevait une place de choix auprès du lit de l'empereur. Cet état de choses dura pendant une année. L'empereur, la cour et le peuple connaissaient par cœur les airs de l'oiseau mécanique. Il n'y avait pas un passage, une ruelle où quelqu'un ne les fredonnait. Mais un soir, où l'oiseau chantait pour le plaisir du monarque, il y eut un crac dans ses entrailles, un brrrr, et la musique cessa soudain. En émoi, l'empereur appela son médecin, qui n'y put rien, puis fit venir son horloger. Démonté, l'oiseau fut examiné, ses pivots étaient usés. Désormais, afin de le ménager, on ne pourrait le faire chanter que pendant quelques minutes et seulement une fois par an. 5 années s'écoulèrent ainsi quand le souverain tomba malade. Sentant sa fin proche, le pays plongea dans une douleur infinie et un successeur lui fut choisi. Mais une nuit, alors qu'il suffoquait dans son lit, l'empereur ouvrit les yeux. Coiffé de la couronne impériale et portant son sabre et son drapeau, la mort était à ses côtés. Et derrière elle, dans les plis du rideau, sous la forme de visages doux et de visages horribles, les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur venaient se rappeler à lui. « Arrêtez, s'il vous plaît !» suppliait le vieil homme. « On ne peut pas tout me reprocher. Pour certaines choses, je n'étais pas informé. » Mais les figures continuaient leur bal terrible. Ne voulant plus rien entendre, l'empereur pria le rossignol de jouer. Hélas, personne n'étant là pour le remonter, l'automate resta muet. Mais soudain, dehors, s'éleva un chant magnifique, celui du rossignol gris. Ayant appris la maladie de l'empereur, il venait lui chanter l'espoir pour le consoler. Grâce au charme de sa voix, les visions de l'empereur s'estompèrent et le sang circula mieux dans son corps affaibli. Même la mort se régalait. Elle répétait « Encore, petit oiseau, ça me plaît !» Et en échange de la couronne, du sabre d'or et du drapeau, le rossignol continua. Il lui chanta son jardin, un grand cimetière ombragé où se penchent des roses blanches et où le tilleul répand son parfum mielé. Alors, prise du désir de tranquillement s'y promener, la mort partit par la fenêtre. « Oiseau céleste !» clama l'empereur. « Tu as éloigné la mort de moi, alors que je t'avais chassé. Comment te remercier ?»« C'est déjà fait, » dit l'oiseau gris. « Tes larmes, la première fois que j'ai chanté, sont des diamants à jamais. Dors maintenant pour te rétablir. » Au réveil de l'empereur, le rossignol chantait encore. « Reste toujours auprès de moi, dit le monarque, et je briserai ton double artificiel. »« Non, épargne-le, dit l'oiseau. Il a chanté de son mieux. Et moi, accepte que je vive où bon me plaît. J'ai besoin de ma liberté, mais de temps en temps, je viendrai à ta fenêtre et te chanterai les bonheurs que tu ne vois pas et les malheurs qui se déroulent loin de toi. Ma taille me permet de voler partout, je connais la réalité. Mais surtout, garde-moi secret. » Et c'est maudit. Il s'envola. L'instant d'après, courtisans et serviteurs entrèrent dans la chambre de leur empereur aimé, qu'ils croyaient trouver défunt. Alors, quelle surprise ce fut pour eux de le découvrir debout dans son habit impérial et de l'entendre les saluer.
Le feu de la toute petite lanterne, par Coq-Chat, illustration de Nicolas Dufaux aux éditions Nathan. 1. Ce n'était pas un grand phare qui veillait l'entrée du village niché au creux de la vallée, mais seulement une petite lanterne. Le jour, on ne distinguait pas son feu à cause de la lumière du soleil, mais on l'apercevait chaque nuit, faisant son travail avec application comme une toute petite étoile. Dans des temps très anciens, jadis, sous le verre de cette lanterne, les ancêtres avaient gravé une courte phrase. « La lumière ne vient pas seulement du ciel, alors entretenez-la. » Mais avec le temps, et parce que les hommes ne l'avaient pas entretenue, cette inscription s'était presque tout effacée et tout le monde l'avait oubliée. Tout le monde, sauf une petite fille, Tina, qui vivait avec son vieux grand-papa. 2. Quand on n'a plus ses parents, on doit sans doute grandir un peu plus vite que les autres. Alors bien que n'ayant que 8 ans, Tina tenait la maison et s'occupait de son grand-père autant que le vieil homme s'occupait d'elle. Et son cœur était si ouvert qu'il percevait les mots chuchotés par les flammes et ceux soufflés par les vents. Secrètement, et presque silencieusement, il lui parlait de temps en temps, lui disant que la lumière ne vient pas seulement du dehors, mais qu'elle vient aussi du dedans, si bien sûr on n'oublie pas d'entretenir sa petite flamme de temps en temps. Il lui disait qu'on l'entretient en étant attentif aux autres, quand on demande si ça va, quand on pense à nourrir les oiseaux quand il fait froid, quand on balaye devant sa porte pour ne pas salir le village, quand on remercie pour les petites et les grandes choses qu'on reçoit. Une nuit, alors qu'aucun nuage à l'horizon ne l'avait annoncé, un dragon se profila dans le ciel, jeta sa langue autour de la lanterne et avala son feu qu'il emporta dans sa tanière sur les sommets de la montagne. La disparition de la lumière n'avait pas fait plus de bruit que le soufflement de la flamme d'une bougie. Et pourtant, Tina se réveilla en sursaut. Elle en fit part à son grand-père, qui l'annonça à son tour au roi et aux anciens du village. « Le feu de la toute petite lanterne, nous l'avons perdu !» clama le plus vieux et le plus voûté d'entre eux. « Le royaume étant en paix depuis longtemps, nous avons oublié la mise en garde des ancêtres. Pauvres fous que nous sommes! Cette lanterne est notre force. Sans sa flamme, nous sommes perdus. Allons consulter le peuple des nains, suggéra le plus malin. Eux, au moins, n'ont pas oublié que les hommes sont tout petits. À chaque fois qu'on les consultait, les nains n'étaient jamais d'accord. Ils se disputaient toujours. Mais tout compte fait, ils étaient de bons conseils. Rendez-vous au lac caché dans la grotte, finit par dire le plus vieux et le plus barbu d'entre eux. Zélie acceptera peut-être de vous renseigner. » Le lac caché dans la grotte servait de lit à une belle fée endormie. Seule la lumière venant d'un cœur sincère pouvait la réveiller. À tour de rôle, le roi d'abord, puis les anciens s'y faufilèrent. En vain, Zélie dormait au fond de l'eau, écrasée par un lourd sommeil. « Laissez entrer Tina !» suggéra le grand-père. À ces mots, les parois de la grotte craquèrent pour accueillir la fillette. 3. Zélie s'étira et sortit de l'eau aussitôt. « Bonjour Tina !»«
Bonjour madame !» répondit poliment Tina. « Excusez-moi de vous réveiller, mais la lumière de la lanterne qui veille sur l'entrée du royaume s'est éteinte la nuit dernière. Nous avons perdu le feu. »
« Je sais, » répondit Zélie en essorant ses cheveux. « Les hommes n'ont pas beaucoup de mémoire. Quand tout va bien, ils se croient devenus très forts. Ils pensent que tout est acquis. Alors, ils s'endorment sur leur laurier et ils oublient d'entretenir le feu des petites lanternes, tout comme le feu du courage. Retiens cette leçon, Tina. C'est quand on croit que les choses nous appartiennent que souvent elles nous échappent. La patience, l'amour et l'humilité doivent s'entretenir tous les jours. Ce sont comme des petites pousses.
« D'accord, je n'oublierai pas, » remercia Tina. « Mais pour le feu de la lanterne, que doit-on faire ?»«
Redevenez un peu petit pour pouvoir grandir, » dit Zélie. « Le feu est au chaud dans la gueule du dragon sur le sommet de la montagne. Pour le récupérer, l'un des vôtres devra faire preuve d'un grand courage. Quant à toi, Tina, » veille particulièrement demain à écouter les vents du ciel. Et ne sous-estime pas le grand pouvoir des vieilles pierres. Elles portent en elles le feu caché de la terre. Ramasse celle qui voudra bien s'offrir à toi.
4. Un dragon, c'est le bouquet, vociféra le roi quand Tina lui apporta les paroles de la fée.
Il fit rassembler les hommes les plus forts du village, les arma et les lança à l'assaut de la bête des temps passés qui nichait dans les sommets. Les guerriers, au moins des milliers, partirent à la nuit tombée. Mais ils n'avaient pas fait 100 pas qu'un mugissement terrible ébranla toute la montagne. Certains perdirent l'équilibre, d'autres s'envolèrent tels des fétus de paille et tous s'écrasèrent au fond de la vallée, dans des bruits de lances brisées. De son côté, Tina était assise à sa fenêtre. Consciencieusement, loin du fracas, elle écoutait le vent qui passe. Dans ses oreilles, silencieusement, il lui déposait des phrases. Elle disait que quelqu'un allait bientôt arriver, que ses pas approchaient, que cette personne n'avait pas grand-chose de particulier, que sa grandeur était cachée, mais qu'avec les yeux de son cœur, la fillette le reconnaîtrait. Quand elle sentit que le vent avait terminé, Tina referma la fenêtre et rejoignit son grand-père dans la pièce d'à côté. Il était en train de fabriquer un objet. La fillette s'approcha sans lui parler. Elle ne l'interrompait jamais quand il était absorbé.
Mais le vieil homme connaissait la délicatesse de sa gentille petite fille, et même lorsqu'il travaillait, elle était sa priorité. Il déposa ses outils et l'invita à s'asseoir tout près de lui. Ainsi donc, Tina s'assit et, dans le cercle qu'ils formèrent, elle partagea les mots qu'elle avait reçus avec lui. « Allons faire quelques pas », suggéra le vieil homme en l'entraînant dans le jardin, où les fleurs s'étaient fermées pour la nuit. « Compte tenu de ces choses que le vent te confie, un jour prochain, je sais que tu partiras. »« Oh non, je ne te quitterai jamais, grand-père !» cria Tina, en trébuchant sur une pierre. « Oh si, c'est la vie, ma chérie, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour tout de suite. Nous avons encore du temps à partager tous les deux, et je m'en réjouis. » Tina se serra contre lui, elle savait qu'il disait vrai. Puis elle ramassa la pierre qui avait accroché son pied. C'était une pierre en apparence ordinaire, mais en manquant de la faire tomber, celle-ci l'avait appelée. Et Tina avait toute confiance dans les paroles de la fée. « Grand-père, le jour de mon départ, est-ce que tu seras très triste ?» Le grand-père s'agenouilla au pied de sa petite fille. « Tu es mon merveilleux petit soleil, ma chérie. Mais le jour où tu partiras, ça signifiera qu'ensemble, nous aurons réussi à mettre tant de force en toi que tu seras prête à ouvrir grand tes ailes et j'en serai tout éblouie. Sais-tu pourquoi les arbres portent des fruits ? Pour que le vent les emporte et qu'à leur tour, ils portent plus loin la vie. » 5. À la première heure, le lendemain matin, un jeune homme se présenta à la porte du grand-père. Il cherchait un vieil homme vivant avec une enfant. « J'ai eu vent, dit-il, que celle-ci aurait une chose à me dire et une autre à me donner. Serait-il possible que ce soit ici ?» Le grand-père le dévisagea. Ce garçon avait quelques années de plus que Tina, mais si les cœurs comme les gâteaux étaient fabriqués dans des fours, les leurs viendraient très certainement du même moule. Car ils percevaient, tous les deux, les mots cachés dans les chuchotis et leurs regards étincelaient d'une même flamme vive. « Il s'agit sans doute de ma petite fille. Entrez donc, je vous en prie. » Tina reconnut tout de suite le son des pas de celui dont les vents lui avaient annoncé la venue. Il se prénommait Erin. « As-tu quelque chose à me dire ?» lui demanda le jeune homme. « Oui, répondit la fillette. Il y a deux nuits, un dragon a enlevé le feu de la lanterne qui veille sur l'entrée du village et l'a emmené dans sa tanière sur les sommets de la montagne. L'homme qui le récupérera devra faire preuve d'un grand courage et il devra être petit. « De taille ?» s'étonna Erin. « Non, il devra être petit dans son orgueil. Il ne devra pas être fier. »« Ah, très bien, » comprit le garçon. « Et qu'as-tu à me donner ?»« Rien, pourquoi ?» demanda la fillette. Puis elle se souvint de la pierre. « Si, peut-être ceci, » lui dit-elle. 6. On raconte qu'un jeune homme du nom d'Erin gravit tout seul la montagne en portant au creux de sa main une lanterne dont la flamme était éteinte. Et qu'il se présenta sans armes à l'entrée de la tanière d'un dragon vraiment gigantesque. Dans sa poche, il avait seulement une pierre. « Qui ose m'approcher ?» avait mugi la grande bête sans sortir de sa tanière. « Erin est mon nom, » avait répondu le garçon. « Je viens vous demander l'autorisation de récupérer le feu de cette toute petite lanterne. Ce n'est pas grand-chose pour vous, votre feu intérieur est si grand. »« C'est vrai, je suis puissant, » avait tonné l'animal. « Mais quand je donne quelque chose... » « J'entends qu'on y fasse très attention, et ce n'est pas ce qui s'est passé. »« Oh !» comprit le garçon. « Ça ne se reproduira pas, je veillerai sur le feu et je regraverai l'inscription. »« Très bien, qu'as-tu à me donner en échange ?» mugit alors le dragon. « J'ai une pierre. »« Une pierre ?» éclata de rire l'animal. « J'espère au moins qu'elle est précieuse. »« Elle l'est, une petite fille me l'a donnée pour m'aider, elle vit avec son grand-père. » Le dragon était-il bon ? S'était-il laissé émouvoir ? Ou comptait-il ne faire qu'une bouchée d'Erin ? Quoi qu'il en soit, il invita le garçon à entrer dans sa tanière. « Merci, » répondit Erin en essayant de faire confiance à la bête. De toute façon, dehors ou dedans, il était à sa merci. 7. Erin passa l'entrée gigantesque. Le dragon était encore invisible. Quelques pas plus loin, la caverne se rétrécissait jusqu'à prendre une taille humaine. Un homme âgé s'y trouvait. Il était vieux par les années, mais tant de lumière brillait dans ses yeux qu'on le sentait très puissant. « Assieds-toi, jeune Erin. Cette montagne t'a certainement épuisée. Ses pentes sont si escarpées qu'il faut avoir au moins 4 pattes et des sabots pour la grimper. » Erin fit ce qu'on lui demandait. Le vieil homme lui ôta ses souliers. « Hélène, » demanda-t-il à voix haute, « peux-tu m'apporter le baume ?» Une vieille femme fit son entrée par une ouverture dérobée. La chevelure blanche qui lui entourait la tête lui donnait un air de reine. Erin en fut émerveillée. Il l'imagina à la tête d'un royaume immaculé. « Incontestablement, tu es courageux. » « Erin, » reprit le vieil homme, « tu te bats avec vaillance, tu ignores le découragement, mais à certains égards, méfie-toi des combats. S'ils forgent le caractère de l'homme, à force, ils peuvent lui durcir le cœur. Alors n'oublie pas de chercher aussi l'amour. C'est de lui, au fond, que l'homme tire sa plus grande force. Autre chose, ce n'est pas parce que tu as été courageux aujourd'hui que tu le seras demain. Dans la vie, on doit faire ses preuves tous les jours. Ne l'oublie pas. Rien n'est jamais acquis en ce monde, tout s'entretient. On n'est jamais au bout du chemin. Et en même temps que le baume soulageait les pieds du garçon, la douceur de la voix du vieil homme et la chaleur de ses mots lui envahissaient le cœur. Épuisée, Erin finit par s'endormir en pensant à la fillette qui lui avait donné la pierre. Qui était-elle? Comment s'appelait-elle? Il n'avait même pas songé à lui demander son prénom. 8. Le lendemain, à son réveil, la caverne, le vieil homme, la majestueuse Hélène, tout avait disparu. Sauf le feu de la lanterne qui brillait aux côtés d'Erin, et les mots en lettres d'or que le vieil homme avait glissés dans son cœur. 2 jours plus tard, la lanterne retrouva sa place à l'entrée du village. À la première inscription qu'Erin avait réveillée, il en avait ajouté une seconde. « Rien n'est jamais acquis en ce monde, tout s'entretient, on n'est jamais au bout du chemin. »« Le reverrai-je ? » demanda Tina à la fée du lac caché qu'elle était retournée consulter dans le plus grand des secrets. « Sois patiente, chaque chose en son temps, » dit Ellie en essorant ses cheveux. « Continue chaque jour à écouter le vent qui passe et écoute les mots de ton cœur. S'il te parle souvent de lui, alors qui sait, peut-être qu'il reviendra. » « Ah, merci !» répondit Tina, avant de quitter la grotte. Puis soudain, comme piquée par une mouche, elle prit ses jambes à son cou et courut jusque chez elle. Elle avait bien le temps de penser à l'amour d'un homme. Pour l'instant, elle n'avait que 8 ans, et elle vivait avec son grand-père. Justement, celui-ci l'attendait patiemment sous le porche. « Il se fait tard, où étais-tu passée, Tina ?»« Nulle part, enfin, c'est pas important !» répondit la fillette. « Grand-père, j'ai repéré des mûres à l'entrée du village. Si on allait en chercher, je ferais une tarte pour le dîner et on pourrait s'en régaler. » Et le vieil homme et la fillette partirent la main dans la main, alors que, dans le crépuscule au loin, apparaissait le feu de la toute petite lanterne, brillant comme une toute petite étoile.